Vous êtes sur RTL.
Place à l'info tout de suite, RTL Soir, Thomas Soto. Bonsoir Thomas.
Bonsoir Isabelle, bonsoir à tous.
Bonsoir madame, bonsoir mademoiselle, bonsoir monsieur.
Je voudrais regarder la France au fond des yeux, lui dire mon message et écouter le sien.
Adieu donc, 1974. Et salut à toi, 1975.
Je suis le candidat de l'espoir.
J'aurais aimé pouvoir continuer.
Voilà, eh bien, à bientôt, j'espère, par la voix des ondes.
À bientôt, monsieur le président. 2 février 1926, 2 décembre 2020. C'était donc VGE qui s'est éteint hier à l'âge de 94 ans, emporté par le Covid. Giscard, une carrière, des combats politiques, des réformes qui ont parfois changé notre vie. Un style aussi. On va y revenir, bien sûr, dans RTL Soir, notamment à 18h15, avec Serge Moati. Serge Moati qui avait participé à l'organisation du débat Giscard-Mitterrand de 1981. Et puis à 18h50, dans la culture de l'actu, Julia Molcou nous plonge dans la playlist musicale des années Giscard. Bonsoir Amandine Bégaud.
Bonsoir Thomas, bonsoir à tous.
On découvre avec vous les autres grands titres de l'actualité de ce jeudi 3 décembre.
Et Emmanuel Macron rendra ce soir hommage à Valéry Giscard d'Estaing, allocution solennelle. Tout à l'heure à 20h, une journée de deuil national pourrait être décrétée. Dans ce journal également, la crise sanitaire, et on vous emmène ce soir au Havre où le gouvernement s'apprête à organiser un dépistage massif. Et puis à la veille du Black Friday, certains commerçants demandent ce soir le report des soldes à fin janvier, vous les entendrez.
La météo, Peggy Broche. Bonsoir Peggy.
Bonsoir Thomas.
Demain, ce sera encore bien, bien perturbé.
Exactement, avec de la pluie entre les Pyrénées et les frontières de l'Est, localement soutenue même dans le Sud-Est et également sur la Corse. De la neige sur tous les massifs, surtout sur les Alpes des 800 mètres d'ailleurs. Prudence, les Hautes-Alpes sont en vigilance orange pour neige et verglas. Et puis on aura un temps instable à l'ouest, sur les côtes de la Manche et la façade atlantique, avec de fréquentes averses, toujours beaucoup de vent. Et entre les deux, on retrouvera un peu plus d'éclaircies l'après-midi, des averses plus rares, tout ça sous des températures stationnaires, pas de gelée matinale, des maximales entre 4 et 15 degrés.
Merci Peggy.
RTL Soir.
Comme il l'avait fait pour Jacques Chirac, Emmanuel Macron prendra donc la parole ce soir pour rendre hommage à Valéry Giscard d'Estaing, une allocution télévisée, ce sera à 20h. L'ancien président, en revanche, ne devrait pas avoir droit à un hommage national, il ne le souhaitait pas, Vincent Derosier.
Oui, et c'est un casse-tête à l'Élysée pour trouver le moyen de célébrer la mémoire d'un ancien président salué dans le monde entier, mais qui ne voulait pas de grandes cérémonies aux Invalides ou ailleurs au son de la garde républicaine. Valéry Giscard d'Estaing veut être enterré modestement à Autun, aux côtés de sa fille Jacinthe. Alors pour contourner le problème, sans heurter la famille, un proche d'Emmanuel Macron insiste déjà sur le caractère très 5e République de l'allocution de ce soir à 20h. Comprenez qu'il y aura beaucoup de solennité et un hommage très appuyé aux réformateurs infatigables. Et d'après nos informations, une journée de deuil national va être décrétée ce soir par Emmanuel Macron. En général, les drapeaux sont mis en berne, une minute de silence à l'échelle nationale peut être décidée. Mais il n'y a rien de gravé dans le marbre pour les hommages, rien d'obligatoire, c'est le président qui décide. Enfin, un autre hommage se prépare, mais celui-là à l'échelle de l'Europe, pour saluer une dernière fois l'engagement de Valéry Giscard d'Estaing pour construire l'Union européenne.
Merci beaucoup Vincent. Vincent Derosier, dès hier soir, Emmanuel Macron a salué la mémoire de Valéry Giscard d'Estaing. Son septennat, a-t-il écrit, a transformé la France. Bonsoir Marie Mollet.
Bonsoir.
On retiendra notamment que tout ce qu'a fait VGE pour les femmes.
Oui, porter le droit des femmes, il en avait fait un argument de campagne martelé dans ses meetings de 1974.
Si je suis élu, je m'efforcerai d'assurer aux femmes une représentation aussi importante que possible.
Du jamais vu alors, 5 femmes entrent au gouvernement Chirac, parmi elles, une secrétaire d'État à la condition féminine, déjà célèbre.
Sur le perron, Françoise Giroud apparaît un peu surprise et fort souriante.
Je crois que c'est un poste important dans l'esprit du président de la République et du Premier ministre.
Et les promesses seront tenues, le remboursement de la contraception, le divorce par consentement mutuel. Il ira même au-delà avec une mesure qui ne figurait pas dans son programme. 1975, devant une assemblée d'hommes, Simone Veil défend la légalisation de l'IVG.
Aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l'avortement. Il suffit d'écouter les femmes. C'est toujours un drame, cela restera toujours un drame.
3 jours de violents débats, le texte sera adopté contre l'avis de sa propre majorité.
Alors Marie Giscard et les femmes, ça n'est pas seulement une histoire de politique.
Oui, avec un surnom trouvé par le canard enchaîné et qui en dit long, Valérie Folamour. image d'un président volage. On lui prêtera de folles liaisons avec des actrices, une photographe ou l'épouse de l'empereur Bokassa. Lui laissait courir les bruits et cultivait même cette réputation d'homme à femme. Giscard et la séduction à tout prix, jusqu'à peut-être franchir la ligne. Accusé l'an dernier d'avoir touché les fesses d'une journaliste allemande qui portera plainte. En juin dernier, il démentait sur l'antenne de RTL.
Un événement qui aurait été un geste dont personne n'a gardé le souvenir. Donc j'ai trouvé que c'était grotesque, et le grotesque ne blesse pas.
Grotesque, dit-il. En tout cas, des histoires d'amour. Valéry Giscard d'Estaing en a aussi inventé, comme dans ce roman d'amour qu'il publie en 2009, l'histoire d'une passion imaginaire, vraiment, entre Lady Diana et un chef d'État.
Merci beaucoup, Marie Mollet. Giscard, qui a aussi beaucoup fait pour son fief, l'Auvergne. C'est lui qui est à l'origine, notamment, de Vulcania, Frédéric Perruche.
Oui, l'œuvre de sa vie, selon ses propres mots, cet immense parc d'attractions, à la fois ludique et pédagogique, au pied des volcans d'Auvergne, inauguré en février 2002, Frédéric Bonichon, son président.
J'ai souvenir de son Viva Vulcania. Il avait 10 ans ce jour-là et il était comme les enfants qu'il avait invités, fier du projet qui faisait parler de l'Auvergne. Cette année-là, il y a eu presque 700 000 visiteurs à Vulcania. Il était heureux que ça contribue à une image positive, moderne de l'Auvergne. C'était vraiment son obsession de tirer l'Auvergne vers le haut dans toutes les décisions qu'il a prises.
Faire rayonner l'Auvergne, changer son image et la désenclaver, c'était son ambition, avec la création très appréciée des habitants de l'autoroute A75 entre Clermont et le sud.
Montpellier, c'est à peine à 3 heures, donc les gens qui ont envie d'aller sur la Méditerranée, ils vont en 3 heures à Gruissant, à Béziers, à etc. Hein, et gratuitement. C'est un gros avantage.
Et puis il y a le Zénith de Clermont et ses 10 000 places, magnifique salle de spectacle inaugurée par Johnny, avec un président survolté dans les gradins. En 2003.
Frédéric Perruche en Auvergne pour RTL et tout au long d'RTL Soir. On va bien sûr continuer à rendre hommage à Valéry Giscard d'Estaing et notamment dans quelques minutes avec Serge Moatti qui sera l'invité d'actualité. Dans l'actualité également ce soir, la crise sanitaire et une nouvelle conférence de presse de Jean Castex. C'est la 237e. Elle a débuté il y a quelques minutes.
Le Premier ministre qui doit donner des détails sur la campagne de vaccination, sans doute aussi sur ces dépistages massifs annoncés dans trois villes, Lille, Saint-Étienne et Le Havre. Le Havre où vous êtes rendu, Frédéric.
Oui, alors ici au Havre, on a bien évidemment entendu parler de ces dépistages massifs. Alors pour l'instant, aucune communication de la municipalité sur ce sujet qui laisse perplexe cette commerçante du centre-ville.
Pourquoi le Havre ? On peut déjà se faire tester quand on en a envie en fait. Il n'y a pas besoin de cette campagne-là pour aller se faire tester. On peut y aller si on a des symptômes, on peut y aller si on a un doute.
Stéphane, 31 ans, lui par contre, ira se faire tester car il compte bien rendre visite à ses parents pendant les fêtes.
Bah, on ne sait jamais, on peut être porteur du Covid, donc pour protéger les biens, c'est pas plus mal quoi. Mais c'est rassurant, voilà.
Rassurant aussi et nécessaire pour ce quinquagénaire.
Tout le monde est concerné, les jeunes, les anciens. Avant, vous disiez que c'était les plus de 65 ans qui étaient menacés. En fin de compte, c'est bien ça que tout le monde est concerné. Hein. Voilà, c'est une bonne chose. Mais pourquoi le 1 plus qu'une autre ? Est-ce que c'est parce qu'il y avait Édouard Philippe avant ? Est-ce que... Et voilà. Mais non, mais moi, je suis entièrement d'accord. De toute façon, je le ferai.
Et Édouard Philippe, le maire du Havre, devrait s'exprimer sur ce sujet demain dans la matinée.
Au Havre, donc, le reportage de Frédéric Veil. Dans un instant, sur RTL, le Covid qui a tué 4 fois plus en Seine-Saint-Denis qu'ailleurs en France. C'est ce que révèle l'INSEE ce soir.
RTL Soir. RTL Soir, Thomas Soto.
18h10, la suite du journal avec vous, Amandine Bégaud. À l'instant, Jean Castex qui annonce que le gouvernement recommande 6 adultes à table, sans compter les enfants, pour les fêtes de fin d'année. C'est la conférence de presse qu'évidemment on est en train de suivre. On redoutait, hein, et bien c'est confirmé, la crise sanitaire a accentué les inégalités en France.
L'INSEE publie ce soir son tout premier bilan du premier confinement, un bilan intitulé « Les inégalités sociales à l'épreuve de la crise sanitaire ». Bonsoir Marie Guerrier.
Bonsoir.
On n'est pas tous égaux face au Covid, la preuve d'abord avec les chiffres de la surmortalité.
Oui, elle touche particulièrement les plus défavorisés. En mars-avril, la mortalité a augmenté de 27% au niveau national. C'est plus 123% en Seine-Saint-Denis, le département le plus pauvre de France. 123%. Population dense, logements suroccupés, forte proportion d'ouvriers qui ont continué à travailler en présentiel, à prendre les transports en commun à un moment où il n'y avait pas de masque. Et puis pauvreté va aussi souvent de pair avec problèmes de santé qui accroissent le risque de développer des formes graves de la Covid. Les plus modestes sont également les plus touchées par la crise économique provoquée par la pandémie. 715 000 emplois détruits au premier semestre, en premier lieu dans l'intérim, donc chez les plus précaires. 54% des ouvriers ont été mis au chômage partiel, 36% des employés. Et qui dit chômage partiel dit seulement 84% du salaire. L'INSEE note qu'au printemps, la perte de revenus disponibles des ménages est la plus forte enregistrée sur un trimestre depuis 1949.
Bon Marie, il y a aussi et heureusement des aspects positifs au confinement.
Oui, les Français ont trouvé à s'occuper. Les activités ludiques et culturelles ont augmenté de 5 à 10%. Jouer de la musique, danser, dessiner, faire du montage vidéo. Et alors que les cadres pratiquaient davantage que les ouvriers avant la crise, eh bien le confinement a gommé cette différence. Les plus de 60 ans et les femmes se sont prises au jeu. Vidéo, 51% d'amatrices au lieu de 39% avant le confinement. Elle rattrape presque les hommes.
Merci beaucoup Marie. Marie Guerrier, c'est dans ce contexte et à la veille du Black Friday que certains commerçants réclament ce soir un report des soldes, ceux de janvier. Christian Ball est commerçant à Bordeaux et président de la CAMF qui regroupe les commerçants de 19 métropoles.
On ne peut pas sortir d'un confinement, avoir un Black Friday décalé d'8 jours et puis avoir des soldes toujours au 2 janvier. Ça ne veut plus rien dire. Ni même au 6 janvier, ça ne veut rien dire. Nous avons des stocks qui sont rentrés il y a déjà 2 mois, qu'on a payés. Donc maintenant, il faut récupérer des fonds pour pouvoir payer ce que nous avons commandé il y a 3 à 6 mois pour la prochaine saison. Donc il faut impérativement que ça soit vendu à prix décent pour qu'on ait la trésorerie pour pouvoir continuer. C'est une évidence économique. Nous demandons que les soldes soient repoussés à fin janvier pour nous laisser presque un mois et demi complet après la sortie du Black Friday pour vendre à des prix décents.
Propos recueillis pour RTL par Philippe de Maria. Le réquisitoire à présent au procès de Joël Le Squarnec. Le procureur a demandé 15 ans de prison pour cet ancien chirurgien qui comparaît depuis lundi pour viol et agression sexuelle sur 4 mineurs. Alice Moreno, c'est en dessous de la peine maximale.
Oui, 15 ans de réclusion criminelle, ce n'est pas la peine maximale, mais elle est personnalisée et saluée par les avocats des victimes. 15 ans de réclusion et à l'issue, un examen psychiatrique qui justifiera ou non un placement en centre de rétention. Ces réquisitions ont le mérite de rassurer sur les risques de récidive, ajoute une avocate. L'avocat général demande aussi l'interdiction pour Joël Le Squarnec d'entrer en contact avec des mineurs à sa sortie de prison et son inscription au fichier des délinquants sexuels. Pendant le réquisitoire, l'accusé est demeuré impassible à l'image de son attitude ces derniers jours devant la cour d'assises. Hier, il a toutefois reconnu en quelques mots avoir commis des viols, des aveux aussi brefs soient-ils que l'avocat général a salué cet après-midi. Midi. Le verdict est attendu dans la soirée.
Alice Moreno devant la cour d'assises de Charente. Et puis sachez par ailleurs que Claude Guéant lui a été mis en examen aujourd'hui. Mis en examen pour association de malfaiteurs dans le cadre de l'enquête sur un possible financement libyen de la campagne de Nicolas Sarkozy en 2007.
Le Vendée Globe à présent et après le spectaculaire sauvetage de Kevin Escoffier en début de semaine, 2 skippers sont ce soir en difficulté. Sébastien Simon et Samantha Davis, leurs 2 bateaux ont chacun percuté un OVNI, un objet flottant non identifié. Oui, c'est comme ça qu'on les appelle. Et puis il y a du foot. Ce soir, Ligue Europe et Lille reçoit le Sparta Prague. Une victoire permettrait aux Nordistes de se qualifier pour les 16e de finale. Les Bleus, eux, sachez-le, affronteront la Belgique en demi-finale de la Ligue des Nations. Alors ce sera dans longtemps, en octobre 2021. Vous savez, c'est la nouvelle compétition. Le tirage au sort a eu lieu il y a quelques minutes. C'est pour ça que je vous en parle. Peut-être la revanche de la demi-finale de la Coupe du Monde de 2018.
Le tirage aujourd'hui pour le match en 2021 de la revanche de 2018.
Et l'autre demi-finale, ce sera Italie-Espagne.
Et ben voilà, toujours en octobre 2021.
Oui, aussi.
On aura le temps d'en reparler. Merci beaucoup Amandine,
à tout à l'heure.
En 1981, il avait préparé François Mitterrand pour son débat d'entre-deux-tours de la présidentielle face à un adversaire redoutable, Valéry Giscard d'Estaing. Entre souvenirs et nostalgie d'une époque, le réalisateur Serge Moati est l'invité d'RTL Soir, c'est tout de suite.
RTL Soir, Thomas Sauto.